chronique bouquin sur Radio PFM 99.9, la chronique 1001 pages proposée pour nous par Frédéric à distance du côté de Béthune. Alors Frédéric, tu nous parles d'une triste affaire qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et marqué l'inconscient collectif, l'affaire Dupont de Ligonnès.
Oui Nico, il faut bien reconnaître que depuis 2011, lorsque votre voisin se pointe chez vous pour lui dire tu veux venir voir, je viens de refaire ma terrasse, bon, je crois que c'est quand même du bon boulot. Avant de le féliciter, avouez, vous demandez toujours ta femme est là, je peux embrasser tes enfants? Si, on fait ça tous maintenant. Ou alors lorsqu'on voit sortir de Brico-Dépôt un type avec 3-4 gros sacs de chaux-vives, il charge tout ça dans son C5. Avouez qu'on a envie de le suivre pour être certain que, si. Depuis 2011, ces choses-là ont un tout petit peu bougé. Et il n'est pas anormal, après le très 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 gros succès des différentes enquêtes menées par des journalistes de Society, et un numéro d'été qui a connu je ne sais combien de réimpressions, eh bien il n'est pas complètement anormal qu'un romancier se penche lui aussi sur cette affaire. Il s'appelle Romain Puertolas, vous le connaissez hein, forcément, parce que son premier roman, publié aux éditions du Dilettante, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, a connu un succès international. Là, le livre est publié chez Albin Michel, et il conjugue l'imagination, l'enquête, et aussi, d'une certaine façon, évidemment, puisque Romain Puertolas est romancier, une certaine façon de se glisser dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès. Cette succession de chapitres donne au roman un ton tout à fait particulier, puisque ceux qui l'ont déjà lu le savent, il ne manque pas d'humour, et puisqu'il faut quand même être très très fort pour glisser de l'humour dans tout ça. Mais il est, et ça peut-être moins de gens le savent, il est aussi un policier. Il a été pendant de nombreuses années policier après une vie plus ou moins varié, pourrait-on dire. Il a été policier, et en 2011, d'ailleurs, il l'était, et il est devenu complètement obsédé. Il faudrait un mot un petit peu plus fort encore que ça par cette affaire. Il a été très, très révolté par la façon dont tout cela a été mené. Il n'aurait sûrement pas fait ainsi. Et puis, il nous explique, en tant que policier, comment tout cela fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'un mandat d'arrêt international, en fait, c'est pas vraiment, vraiment ce qu'on imagine dans les films? Qu'est-ce qui fait qu'une enquête reste ouverte, plus ou moins ouverte? Parce qu'évidemment, les moyens manquent, vous le comprenez. Et puis, il y a d'autres urgences, il faut chercher d'autres choses. Alors, oui, on n'a pas refermé le dossier. Alors, oui, de temps en temps, une photo réapparaît. Et à ce moment-là, cet acte-là fait que l'enquête reste ouverte et continue de... Pour la peine, plus tard, ce sera sans doute utile, si jamais on remet la main sur lui. Car ce que nous apprend le livre avant toute chose, c'est bien ça. C'est qu'au fond, se cacher, c'est peut-être pas si dur que ça. Et c'est ce que nous explique l'auteur. D'ailleurs, le livre commence avec une location Airbnb à côté de la maison qu'il possède dans l'Ariège. Et là, il croit voir s'asseoir Xavier Dupont de Ligonnès, pas moins. Ça se passe pas très très bien, parce que très vite il a envie d'essayer de le confondre. Celui-ci le comprend, il essaie de l'ébouillanter en lui plongeant la tête dans de l'huile bouillante, mais le romancier se défend et finit par l'assassiner de 97 coups de couteau à beurre. Oui, je n'invente rien, tout cela est dans le roman, c'est tout au début, je vous assure que j'ai rien abîmé. Mais bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est la suite. C'est surtout cette variation de ton entre l'enquête qu'aurait menée Puertolas s'il était encore policier. Là, c'est très très précis, c'est presque rugueux, j'ai envie de dire. Et puis, tout ce qu'il est capable de faire en tant que romancier, et en se glissant dans la tête de Dupont de Ligonnès, et surtout en multipliant les chapitres où il invente tout ce qui a pu se produire avant qu'on le voie, avant que une personne ne le voit réapparaître aux États-Unis, en Thaïlande ou ailleurs. C'est ça, probablement, que je préfère dans le livre. Ces histoires multipliées à l'infini pour arriver exactement dans la situation où tel ou tel témoin croit l'avoir vu, et peut-être même l'a vu. En tout cas, ça je vous assure que même si vous n'êtes pas un fan de l'affaire, il va vous être difficile de ne pas vous projeter chapitre après chapitre à travers la vie de Xavier Dupont de Ligonnès, à travers ses amis, à travers sa famille, celle qui est disparue, celle qui est toujours vivante, à travers aussi, d'une certaine façon, les leçons que l'on peut prendre pour s'en aller, disparaître. Dans ce cas-là, c'est évidemment tragique, vous le comprenez, mais peut-être dans d'autres fuites. Ça s'appelle « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès ». C'est publié chez Albin Michel et c'est signé Romain Puertolas. Voilà pour cette semaine, Nico.
Merci Frédéric. Prochaine chronique 1001 pages la semaine prochaine, toujours sur Radio PFM 99.9. Une chronique à retrouver en ligne, radiopfm.com.